pochette surprise.
J'apparaîtrai chaque soir à 7h.
Au fil des rencontres et des coïncidences, au gré de l'humeur et des inspirations,
n'ayez pas peur.
Je n'aurai pas peur.
Pochette surprise.
Des histoires.
Des péripéties.
Des péripéties.
Des chroniques.
Des chroniques, des nouvelles.
Des chroniques, des nouvelles.
Du monde et de ceux qui l'habitent.
Exprimez vos moindres caprices.
Expecto patrono!
Alors, le deuxième aspect après de mai 68 pour moi dans mes souvenirs, c'est le fait que je suis originaire de Faux-la-Montagne, enfin du moins ma grand-mère habitait Faux-la-Montagne, et que cet été-là, je suis venue, comme d'habitude, à Faux-la-Montagne en vacances. Le grand intérêt de mai 68, de ces vacances-là, c'est le moulin de Vilsain et ce qui s'y passait. Je connaissais déjà plus ou moins, alors je ne sais plus comment. Je pense que c'était par l'intermédiaire de François Chatou, qui avait 2 ans de plus que moi, mais qui, comme moi, était de la banlieue nord de Paris et qui venait en vacances chez sa mémé, chez sa grand-mère, tous les étés, et on se connaissait. Et François avait sa tante, Pépé Chatou, qui vivait avec un homme qui s'appelait Henri Fournier et qui était établi, au moins à l'époque, peut-être pas toute l'année, au moulin de Vilsain dans la Feuillade. Henri Fournier, je crois, avait 30 ans en 68. Henri était à Nanterre, étudiant à la même époque. Il faisait partie des enragés de Nanterre. C'est à peu près le même mouvement. Enfin, je ne savais pas trop. C'est après que j'ai reconstruit cette histoire. Les enragés de Nanterre, le mouvement du 22 mars, etc. Et les cahiers de mai. Puisque Henri, avec ses amis, ses copains, ses connaissances, ont créé les cahiers de mai. Au moulin, se côtoyaient et étaient invités, étaient présents un certain nombre de personnes, aussi bien de sa génération à lui, assez politisées, etc., et de personnes du village. En l'occurrence, Michel Chatou, qui était le petit frère de Pépé Chatou, qui était assez politisé, mais qui habitait le village, qui était étudiant. C'était un maoïste. Et alors, quand on descendait au moulin du Vilsain, il y avait un énorme mât en bois planté comme ça en plein milieu avec un drapeau de Mao Tse-tung qui flottait au vent. C'était quand même assez impressionnant, quoi. Il était représenté quand même au moulin plusieurs mêmes mouvements politiques. C'était un peu un mélange. Il y avait les Mao et puis ceux qui n'étaient pas Mao. C'était un lieu où il s'est passé plein de choses, quoi. Politique, social, festif. Et puis, il y avait plein de gens. Donc, il y avait les copains de François qui vivaient là pour les vacances, qui avaient planté leur tente, qui faisaient de la musique, qui jouaient de la guitare autour de feux de bois le soir. Il y avait des gens, des vieux de Faux, qui venaient parce qu'Henri les employait pour reconstruire le moulin qui était un peu une vieille bâtisse et qu'il voulait reconstruire. Quand je parle des vieux, c'était ceux qui construisaient, c'était les maçons. Parce que Henri, ce qu'il faut pas oublier, c'est que il avait une double casquette. Il avait une formation de menuisier et puis il faisait des études de philo à Nanterre. Donc c'est quand même quelque chose déjà. C'est un personnage, je veux dire très particulier, qui n'était pas dans un discours purement intellectuel. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était capable d'avoir des intérêts, des discussions avec plein de personnes différentes. D'ailleurs, l'année d'avant, il y avait ce qu'on appelle maintenant, avec un terme assez particulier, les chantiers participatifs. Il y avait des jeunesses communistes qu'Henri avait invitées et qui aidaient, en ayant gîte et repas gratuits, allez hop, on reconstruisait les murs et on faisait la maison. Voilà. Bien évidemment, il y a toujours les gens réac et bien pensants. Il y avait des gens Faux la Montagne qui ne seraient jamais descendus et qui critiquaient. Pour la petite anecdote, quand Cohn-Bendit a été persona non grata en France et qu'on lui a demandé de quitter le territoire français puisqu'il était franco-allemand, il y a eu des rumeurs comme quoi il s'était installé au moulin. Et donc, bien avant Tarnac, il y a des cartes de CRS qui ont débarqué au moulin, enfin à Faux-la-Montagne, qui ont cherché dans Faux-la-Montagne, partout, qui sont descendus au moulin Et à l'époque, il n'y avait personne au Moulac. Ils ont avancé mètre par mètre, comme si ils allaient, je veux dire, arrêter je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Et ils ont trouvé que un vieux mercenaire qui s'appelait Benz à l'époque, qui gardait les animaux pendant qu'Henri n'était pas là. Et donc, il était tout seul au Moulin, et donc ils n'ont pas trouvé Cohn-Bendit. Ouais, c'était assez fracassant pour les gens du village de voir débarquer, à cause des gens du Moulin, des CRS dans leur village. Et ce lieu, et j'en ai pris conscience après, a été extrêmement important pour moi et dans ma vie, quoi, au fond. Hein. C'est un lieu qui m'a ouvert des portes, qui m'a permis d'entrer dans des champs du possible. Et que ça a été très, très formateur. Enfin bon, c'était quand même un endroit où je n'avais pas l'autorisation d'aller. J'y allais en cachette de mes parents, planquée au fond d'une voiture, pour passer devant la maison de mes parents. Moi, j'ai des souvenirs de pas vraiment très précis, mais c'est une ambiance, quoi. C'est l'ambiance de fête, de joie, de musique, de feu de camp. Mais au Moulin, c'était comme si c'était en miniature ce qui se passait un peu dans ces moments, dans ce qui s'est passé un peu à Paris. Ou d'une façon un peu utopique, on a cru qu'en effet, les ouvriers allaient pouvoir s'entendre avec les étudiants et qu'on allait pouvoir mener de front des luttes. Mais au Moulin, il y avait ce mélange et peut-être cette utopie, j'ai envie de dire, de mélange de gens et de niveaux différents et qui avaient l'air heureux et avec des discussions, il n'y avait pas de conflits, il n'y avait pas... Voilà, c'était très riche.